L'histoire surprenante des contes de fées, Jean-Louis Lahaye.
En avant les amis, nous partons pour le pays imaginaire.
Quand on a peur, on crie, on pleure, sorcière, sorcière.
Il y avait des loups dehors, il y avait des loups dehors, des grands loups carnivores.
Bonjour à tous et bienvenue dans notre série « L'histoire surprenante des contes de fées ». Installez-vous bien confortablement dans votre voiture ou sur votre canapé. Allumez un feu ou mettez les sièges chauffants, prenez vos enfants ou petits-enfants sur vos genoux et laissez-vous bercer par ces magnifiques histoires qui ont marqué notre enfance. Et pour les plus grands, en deuxième partie d'émission, nous vous dévoilerons la face cachée de ces contes de fées. Amour, aventure, magie bien sûr, mais aussi cannibalisme, meurtre, suicide. Avec nos experts, nous découvrirons les versions originales de ces contes de fées et tous leurs secrets. Oyez, oyez, braves gens, damoiselles et damoiseaux. Troubadours, faites rugir trompettes et tambours, puis faites silence, je vous prie, pour ouïr cette histoire sans pareille. Ah, si je me prends à présent pour un ménestrel, c'est que le conte qui va suivre, avant d'être posé par écrit, a été raconté et chanté il y a fort longtemps par des poètes, dans ce qu'on appelait les chansons de gestes. Bien plus qu'un simple récit en vers, il s'agissait là d'un art épique du Moyen-Âge, retraçant les aventures fantastiques des grands guerriers d'antan. Notre histoire commence au 8e siècle, l'ère des chevaliers et de leurs fabuleuses épées, des enchanteurs, des fées et des animaux sacrés. Et à propos d'animal sacré, il en est un qui fut grandement célèbre et qui a laissé bien des traces sur notre terre d'Ardennes. Sculpture, statues, bas-reliefs, sa légende est bien ancrée dans notre belle région. Vous l'aurez deviné, il s'agit du cheval magique Bayard, dont on dit qu'il galope encore aujourd'hui dans nos forêts. Il a donné son nom à des ruisseaux, des moulins et même à des récompenses cinématographiques. Mais qu'est-ce qui lui a valu le titre de cheval le plus célèbre du Moyen-Âge? Eh bien, c'est ce que j'aimerais vous faire découvrir aujourd'hui. Dans l'histoire surprenante de Bayard, le cheval fée. Je m'appelle Bayard. Je suis un grand cheval à la robe couleur baie. Ce qui m'a valu ce nom, Bayard, baie. Mi-animal, mi-fée, on me prête une intelligence et des pouvoirs extraordinaires. Je suis capable de traverser des régions entières en quelques chevauchées, d'étendre ma croupe à loisir et de porter sur mon dos plusieurs chevaliers. Beaucoup d'entre vous ont entendu mon nom. Peu d'entre vous connaissent ma véritable histoire. Certains racontent que je viens des Ardennes, d'autres du royaume des Francs. Il est vrai que je vis en ermite dans la grande forêt ardennaise. Si vous prêtez l'oreille, vous pourrez peut-être m'entendre hennir très clairement lors de la fête de la Saint-Jean. Mais en réalité, c'est en Italie que tout a commencé. Je suis né d'un serpent et d'un dragon. Prisonnier du volcan de l'île de Boca en Sicile, c'est mon bon maître, l'enchanteur Mogis, qui vint un jour m'en délivrer. J'étais enchaîné dans une grotte depuis des années quand un jour, j'entendis des cris et des hurlements tels que toute ma montagne en trembla. Un de mes gardiens, le diable Rahanas, s'en fut voir ce qui se passait. J'entendis une explosion, puis plus rien. C'est là que je le vis. Notre visiteur était une grande bête qui se tenait toute droite sur ses pieds. On aurait dit un ours, mais il avait aussi deux grandes cornes et une queue de goupil. Qu'avait-il fait de Rahanas, mon gardien ? L'ours s'avança dans la grotte et me vit. Il se dirigea tranquillement vers moi. Mais ma mère, le serpent, sortit de sa tanière. Elle était grande et forte. De sa grosse tête horrible et démesurée, elle repoussa notre visiteur qui tira son épée d'or. La bataille dura plus d'un jour et une nuit. Ma mère lançait du feu et des éclairs et l'ours rétorquait à coups d'épée tranchante. À la fin, la peau de l'ours était toute brûlée et ma mère n'était plus qu'une bête agonisante. Un ultime coup lui fut porté et l'âme de ma mère s'éleva alors. Je n'étais pas triste car ma mère ne m'avait jamais aimé. Pas plus que mon père, le dragon. Tous deux me retenaient captive depuis des années. Je hennis de joie et toute la roche de Bocan trembla. À ce moment-là, j'aurais volontiers rejoint ce hardi combattant, mais mon père, le dragon de Bocan, arriva. Quelle ne fut pas ma surprise d'entendre cet ours lui lancer des incantations. Je crois qu'il l'ensorcela car mon père s'envola et me rendit enfin ma liberté. Et c'est alors que devant moi, l'ours se défit de sa peau, retira ses cornes et sa queue. Je vis alors apparaître un très beau chevalier aux cheveux blonds, courts et ondulés. Il s'inclina devant moi. « Ami à la robe baie, je me prénomme Maugis, Maugis l'enchanteur. J'ai ensorcelé ton gardien Rahanas, le diable. Tu es ta mère, le serpent, et je t'ai en sort à ton père, le dragon, pour te libérer. Alors suis-moi. » D'un signe de tête, j'acceptai. Aussitôt, Maugis, au cœur vaillant, brisa les chaînes qui me liaient à quatre piliers de pierres précieuses. Il me saisit par ma haute bride en or fin, et ensemble nous quittâmes le volcan de Bocan pour rejoindre la forteresse de Rocheflore où Maugis vivait entouré des siens. Maugis me présenta à l'enchanteur Baudry, qui l'avait instruit à l'art de la magie. Je rencontrai aussi Orion, de la fée au teint clair, qui avait recueilli Maugis quand il était encore bébé et qui avait élevé cet enfant providentiel. Enfin, je fis la connaissance du lutin espié, ami et serviteur de mon nouveau maître. Maugis n'avait point de parents, ce qui le chagrinait fort. La vérité sur ses origines, seule Orion la connaissait, mais elle la gardait pour elle, de peur de perdre son précieux enfant. Jusqu'au jour où, par mégarde, elle en révéla un peu trop à Maugis, qui lui fit alors tout avouer.
Sage Maugis, Dieu vous garde si vous souhaitez connaître votre lignage, car dès que vous saurez qui sont vos parents, vous ne connaîtrez que peines et tourments.
Dame, je vous en prie, ne me cachez plus rien.
Soit, vous êtes le fils du duc de Beuve, seigneur d'Aigremont, et de la duchesse au beau visage. Vous êtes d'un lignage aux grandes prouesses. Vous fûtes deux garçons en couche. Mais à l'heure où vous naquîtes, il y eut une grande bataille. Et dans la tourmente, une cruelle esclave vous enleva à votre mère, et votre frère fut enlevé par des païens. Je vous ai trouvé près du détroit de Messine, alors qu'un lion et un léopard étaient prêts à vous dévorer. Aujourd'hui, hélas, je le sais, je vous ai perdu, et jamais vous ne me reviendrez.
C'est vrai, belle amie, je pars retrouver mon noble lignage, mais je vous le promets, sur tout l'or de Paris, que je vous reviendrai un jour. Nous préparâmes notre voyage, en portant vivres et habits propres. La belle Oriande arma mon maître et lui remit son aume, son houbert, et un bel écu d'azur foncé portant le lion d'or rugissant. Puis elle lui remit Froberge, la fabuleuse épée à la lame étincelante, source de sève ardente et vigoureuse, qui seule a le pouvoir d'adouber. « Noble Froberge, vous êtes tant convoité, » dit Maugis. « Jamais chevalier ne porta si grande épée. À présent, par la grâce de Dieu, il me tarde de monter Bayard, mon Aragon, et de continuer ma route, à la rencontre de mon père et ma mère et à la recherche de mon jumeau. » Nous chevauchâmes ainsi pendant des mois. Chemin faisant, nous apprîmes d'un vagabond que Charlemagne, roi des Francs, venait d'assiéger la cité de Montclair, dont le châtelain n'était autre que le comte de Hernault à la barbe fleurie, aïeul de mon bon maître Maugis. L'empereur et le comte se disputaient les clés de la belle cité. Maugis était rusé. Il me changea en mule, se travestit en cardinal et prétendit devant les lignes de Charlemagne que nous venions tout droit de Rome, envoyés par le pape lui-même, pour réconcilier l'empereur et le châtelain de Montclair. Nous fûmes reçus en grande pompe sous la tente dorée du roi, puis on nous laissa passer et franchir les portes de la forteresse. C'est là que Charlemagne réalisa la supercherie. Dupé, courroucé, Charlemagne lança alors un nouvel assaut contre la cité. Mais alors que nos hommes se battaient vaillamment, Maugis apprit qu'à des kilomètres de là, le duc Beuve d'Aigremont, son père, était lui-même assiégé par un émir nommé Vivien et son armée païenne. « Mon petit-fils, » dit le comte de Hernault, «
En vérité, je te le dis, il me tarde d'en finir avec ce combat contre notre empereur Charlemagne et d'aller prêter main forte à ton père et son épouse, ma fille. L'empereur est preux et cette guerre futile, car nous sommes dans le même camp, celui de Dieu. Mais à Aigremont, les païens menacent notre cité. Je suis donc enclin à faire la paix avec Charlemagne et à lui remettre les clés de Montclair, pourvu qu'il nous aide à combattre nos ennemis communs. Aïeul, votre parole sera entendue. Laissez-nous, Bayard et moi, porter votre message à l'empereur dont le renom est grand. La porte de la forteresse fut ouverte et le pont battu. Maugis et moi chevauchâmes jusqu'au camp de l'empereur et nous transmîmes le message du comte à Charlemagne.
« Vous avez bien parlé, Maugis, le noble baron, » dit Charlemagne. « Et ce que vous dites est sensé. Que votre aïeul à la barbe fleurie garde sa terre. Nous irons tous ensemble à Aigremont délivrer le duc de Beuve, votre père, de la gent païenne, les vrais ennemis. Que Dieu puisse mettre à mal ce fier émir. »
Ainsi prit fin le siège de la cité de Montclair et la paix déclarée. Les réjouissances furent célébrées de toutes parts et l'empereur fut reçu avec faste à la table du comte de Hernaut et de Maugis. 1000 jeunes damoiseaux firent le service et le repas dura longtemps. Lorsqu'il prit faim, on dormit un peu, puis écuyers et garçons chargèrent les harnais et armèrent les hommes. Enfin, les armées s'acheminèrent vers Aigremont. Nul ne vit de plus belle compagnie que la gent qui suivait l'empereur. Ils allaient mettre les païens en grande destruction.
Il ne fut pas de plus terrible bataille que celle qui opposa Maugis et l'émir Vivien, foi de cheval fait. Pour aller délivrer son père et sa mère, mon bon Maugis avait revêtu un haubert étincelant et lacé un aume vert cerclé d'or. Sur son écu d'azur foncé, il portait le lion d'or rugissant. Avec ses cheveux blonds et sa belle taille, il n'y avait pas de chevalier plus beau et plus noble dans toute la chrétienté. Ses cheveux blonds, coiffés d'un aume d'or fin et ornés de centaines de pierres précieuses, l'émir Vivien, le félon, était lui aussi si beau et si fort qu'il ressemblait à un empereur. Son armure était en or fin battu et il était monté sur maigre mort à la crinière blanche. Vivien avait réuni tous les chefs païens. Ainsi, pour chaque chrétien, ils étaient au moins 3 païens armés. Mais mon intrépide maître, me chevauchant, froberge à la main, valait la force de 100 hommes. Il brandit l'oriflamme avec le dragon royal que Charlemagne lui avait confié et nous fendîmes l'armée païenne. « Montjoie, que trépasse si je faiblis ! En avant, mon bon Bayard !» Nous nous élançâmes à bride abattue. Avec 1000 chevaliers, hardis comme des lions, nous nous battîmes vaillamment, à coups d'épée, de sabots, de lances, mais aussi de sortilèges, grâce à l'art de la magie que maîtrisait parfaitement Maugis. Soudain, Maugis et moi nous retrouvâmes face à Vivien. Nos deux chevaliers se donnèrent de terribles coups sur les aumes, leurs épées allaient plus vite que le vent. Maugis tenait Froberge aux pommeaux d'or ciselés et il parvint à briser le aume de Vivien. Plus de 100 pierres précieuses éclatèrent. Les mailles de sa coiffe en dessous en furent décousues et beaucoup de ses cheveux volèrent. Il était gravement blessé, mais il continua de se défendre vigoureusement. Après un long combat, tous deux furent bien lassés. Ils avaient perdu leur force.
« Émir Vivien, » dit Maugis, « n'avez-vous jamais entendu le proverbe qui dit que l'on doit de faire endurer son ennemi grandement ? Ne nous attardons pas, il fera bientôt nuit. Venez à Aigremont avec moi et reposons-nous. » « C'est vrai, noble Maugis, on perd la guerre un jour, on la gagne un autre. Je m'en irai donc avec vous jusqu'à demain. »
Mon noble Maugis rangea Froberge dans son fourreau à l'étoffe somptueuse et monta sur mon dos. Suivi de l'émir et maigre mort, nous chevauchâmes jusqu'au château afin de nous reposer le temps d'une courte trêve. Mon maître et moi fûmes accueillis avec grand honneur au château d'Aigremont. Le duc et la duchesse pleurèrent longuement de joie et d'émotion pour leur fils retrouvé. Ils avaient entendu parler des exploits de Maugis, le preux chevalier, et de Bayard, son Aragon, et aujourd'hui nous étions venus les délivrer du siège de la gent païenne. La belle duchesse délassa le aume de mon maître, elle souleva ses cheveux qu'il avait en abondance et reconnut l'anneau d'or qu'il avait à l'oreille. Alors, sans soupçon, elle sut qu'il était bien son fils. Plus de 100 fois, elle lui baisa la bouche et le menton. Au même moment, l'émir Vivien retirait à son tour son aume. Afin d'essuyer le sang de sa plaie à la tête, il leva ses cheveux et les mit sur l'oreille. Un anneau d'or fin qui y pendait se mit à briller. La duchesse le vit et son sang ne fit qu'un tour, car elle l'avait bien reconnu aussi.
« Émir, »
dit la duchesse,
« dites-moi qui vous êtes, ainsi que votre père et mère. »«
Dame, en vérité, je l'ignore, » répondit l'émir Vivien. « Ma femme m'acheta quand j'étais petit, puis elle me dit que je fus né de haut lignage. »«
Émir, émir, venez à moi car vous êtes mon fils. L'anneau d'or à votre oreille le prouve. Il m'appartient et votre frère porte le même. »
Je vis alors le fort Vivien tomber sur ses genoux, plus qu'il ne s'agenouilla. « Dame, si ce que vous dites est vrai, je n'ai pas fini de faire pénitence pour tous les maux que je vous ai fait endurer. Oh, que Dieu me mette à mal si je ne renie pas Mahomet et Jupiter !» Là-dessus, il se prosterna encore devant son père et lui baisa le soulier à la boucle. « Père, pardonnez-moi. Le diable pense à faire de moi son rebelle, mais je suis votre fils et le frère du vaillant Maugis, à mon grand bonheur. » Une fois la nouvelle connue que le duc et la duchesse de Beuve avaient retrouvé leurs deux fils, la joie fut immense de par la cité d'Aigremont. Les barons et les habitants menèrent une grande liesse qui dura des semaines et que nul ne pourrait vous compter. Hélas pour moi, la fête fut de courte durée. Je blessai par accident Espié, le grand ami de mon maître. Fâché, celui-ci me donna de grands coups de bâton. Je bondis de colère et dans ma ruée, je tuai net le fidèle Espié. Maugis était fort affligé de la perte de son ami. Il fit donc appeler son cousin, Renaud de Montauban, et me confia à ses bons soins. « Cousin Renaud, robuste courage, » dit Maugis, « je vous confie ce destrier. La guerre est finie pour moi, et je n'aurai pas le cœur de le chevaucher avant quelque temps. Prenez aussi Froberge, mon épée, elle vaut une cité. » Puis Maugis se tourna vers moi. « Par ma foi, Bayard, noble cheval fée, il n'y a pas de meilleur destrier que toi dans toute la chrétienté. Nous avons vécu ensemble une grande aventure. Mais en vérité, je te le promets, nous nous retrouverons un jour. » Ainsi Maugis l'enchanteur et moi-même nous séparâmes. Non, la suite, vous la connaissez. Renaud et ses frères se fâchèrent avec l'empereur Charlemagne et durent fuir sa vindicte. De Montessor, dans la forêt ardennaise, à Montauban, sans cesse, je les portais tous les quatre sur mon dos, allongeant ma croupe à loisir. L'empereur nous pourchassa sans relâche jusqu'au jour où il s'adoucit enfin et consentit à la paix. Mon nouveau maître, Renaud, dut me livrer à Charlemagne et partit en pèlerinage à Jérusalem. Humilié d'avoir été la risée d'un cheval, l'empereur décida de me noyer dans la Meuse. On m'attacha à une énorme meule et on me jeta à l'eau. Mais je n'avais pas dit mon dernier mot. D'un coup de sabot au fond du fleuve, je brisai la pierre qui me coulait et parvins à m'enfuir dans la forêt ardennaise où je retrouvai avec joie mon premier maître qui avait décidé d'y finir ses jours. Maugis et moi coulâmes d'heureuses et nombreuses saisons dans notre ermitage, jusqu'à sa mort qui me causa tant de peine. Depuis, je vis seul, sans compagnie. Je vais par les chemins incertains et occultes de cette forêt, chassant toute la journée et revenant au gîte à la nuit tombée. Voici mon histoire. À présent, je me tairai, car il me faut penser à manger et à boire, et il me plairait de me reposer enfin sous les arbres de ma forêt bien-aimée.
L'interview vérité.
Nous venons d'entendre la chanson de geste, évidemment résumée, de Maugis d'Aigremont. Alors j'aimerais maintenant accueillir notre experte en conte qui va nous en dire un peu plus sur cette incroyable épopée. Bonjour Gaëlle Rucois.
Bonjour Jean-Louis.
Gaëlle, vous êtes diplômée de l'école de journalisme IEX. Aujourd'hui, vous êtes en charge de la SBL de Livre en Livre et depuis une dizaine d'années, vous êtes aussi conteuse pour enfants défavorisés. Alors Gaëlle, Nous venons de raconter la chanson de geste de Maugis d'Aigremont, mais c'est quoi la chanson de geste?
Alors la chanson de geste, c'est une des premières formes littéraires écrites que nous ayons conservées. Par exemple, la chanson de Roland, qui est la plus ancienne et la plus célèbre des chansons de geste, date des environs de 1100. En fait, les chansons de geste, ou les ballades hein, chez les Saxons, ce sont de longs poèmes narratifs qui sont chantés, racontés en vers ou parfois même mimés. Ils célèbrent les exploits des héros d'antan, souvent des chevaliers, et le thème principal est le plus souvent la lutte des chrétiens contre les musulmans, parce que évidemment c'est d'actualité à l'époque, on est à l'ère des croisades.
Alors parlez-nous un petit peu de notre fameux cheval Bayard.
Alors le cheval Bayard s'est surtout fait connaître grâce à deux célèbres chansons de geste. Celle de Renaud de Montauban, qu'on appelle aussi la chanson des quatre fils Aymon. C'est la plus célèbre chez nous parce que c'est là que Bayard est jeté dans la Meuse par Charlemagne et qu'il s'enfuit. Et on retrouve également Bayard dans la chanson de geste de Maugis d'Aigremont, qui est l'histoire que vous venez de nous raconter et dans laquelle on revient sur les origines de Bayard. Et finalement, cette histoire qui a été écrite dans un second temps est en quelque sorte une introduction à la légende bien connue. Hein.
Donc c'est comme ça qu'est né notre bon Bayard?
Pas tout à fait. Ah. Alors en fait, la légende de Bayard est encore antérieure à nos deux chansons de geste. Il faut le rappeler, ces récits ont été chantés oralement pendant des générations avant d'être mis par écrit au XIIIe siècle. Donc Bayard devient le cheval le plus célèbre du Moyen-Âge, mais on pense qu'il est beaucoup plus vieux et qu'il est même issu de la mythologie celtique ou d'autres croyances païennes. Certains mythographes font même remonter son origine au géant Gargantua, lui-même issu d'une divinité celtique, ou aussi à Grand Jument, qui était un animal solaire créé par Merlin l'Enchanteur. En gros, il est difficile de savoir exactement quand est née la légende de Bayard.
Alors Bayard, quelle trace a-t-il laissé chez nous? Parce qu'on parle partout de pas ou de saut Bayard. Est-ce qu'il y a un lien?
Oui, alors depuis le Moyen-Âge, Bayard, c'est une figure importante du folklore ardennais. On trouve chez nous de nombreux toponymes, c'est-à-dire de nombreux lieux, qui sont effectivement connus sous le nom de Pas Bayard ou Saut Bayard. Alors en particulier, près de Charleroi, de Liège ou de Dinan. Le plus souvent, à l'origine de ces toponymes, il y avait, et je parle au passé parce que beaucoup ont disparu, des roches, des pierres marquées de son sabot, des traces de dérapage dues à la puissance de Bayard dans son saut. Alors pour en citer quelques-uns, on a le lieu dit par exemple au Pas Bayard au-dessus de Couillet. On trouve aussi des Pas Bayard à Pépinster, d'Olembreux, à Antine ou encore à Bras, près de Chevron. La rivière de l'Eau Rouge prend sa source dans les Hautes-Fagnes, à proximité de la Fagne du Pas Bayard. Évidemment, il y a Liège, qui est souvent citée pour être la ville où Charlemagne a tenté de noyer le cheval Bayard dans la Meuse. Et enfin, il y a aussi le célèbre rocher Bayard à Dinan. On raconte que les quatre fils Aymon, qui étaient montés sur Bayard, étaient cernés par Charlemagne au pied d'une montagne. Et pour fuir, Bayard a sauté sur la montagne et en frappant le roc de son sabot, il a brisé le rocher en deux. Et le rocher s'est désolidarisé de sa montagne, devenant le rocher Bayard.
Alors une dernière chose qui est assez étonnante dans la chanson de Maugis d'Aigremont, c'est le mélange d'éléments très religieux et païen en même temps.
Absolument. À l'époque des chansons de geste, on était vraiment à la croisée de plusieurs cultes. Plusieurs cultes et croyances. D'un côté, les cultes païens et ancestraux. De l'autre, la chrétienté. Et c'est pourquoi, dans toute la chanson de geste, on est en opposition constante entre des références à des traditions anciennes. Là, je parle des références mythologiques, les dragons, les enchanteurs, les fées, les lutins et les chevaux magiques. Et de l'autre côté, il n'y a pas une phrase où les héros ne citent pas Dieu, la Vierge, le diable. Il y a même un ange qui apparaît à la fin d'un des combats, on n'en a pas parlé tout à l'heure. Et ça, c'est parce que la légende remonte à une époque où le pays est en train d'être christianisé. Et on le retrouve d'ailleurs dans d'autres légendes bien connues de l'époque. Je pense à Arthur et Merlin l'Enchanteur et la quête du Graal. La matière merveilleuse des cultes païens se confronte à la matière merveilleuse dite chrétienne. Et ça crée ce style très plébiscité à l'époque.
Et encore aujourd'hui?
Et encore aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on recommence à s'intéresser à la littérature merveilleuse de l'ère médiévale et qu'elle nourrit magnifiquement le cinéma actuel.
Game of Thrones, Le Seigneur des Anneaux, etc.
Exactement.
Merci Gaëlle.
Merci à vous Jean-Louis.
La morale de l'histoire.
Incroyable épopée que celle de ce cheval dont la réputation précéda et précède encore celle de ses cavaliers. Aujourd'hui, sous l'influence de la légende, le nom commun Bayard est d'usage pour désigner les chevaux couleur baie. Monuments, statues de pierre, de bronze, de métal ou de cinéma, symboles d'Omegang et de festival, il est un important symbole belge, incarnant la rébellion. Car en Belgique, on retient surtout de lui son combat contre l'empereur Charlemagne, sa longue fuite en France et dans les Ardennes, et enfin, cet épisode ultime où l'empereur tente de le noyer, mais notre brave cheval parvient à s'échapper. Ainsi Bayard, tout comme notre petit pays, devient un symbole de résistance. Contre le pouvoir féodal, Le centralisme est la tyrannie d'un empereur qui impose son culte face aux croyances antérieures. Plus encore que Maugis ou que Renaud et ses trois frères, Bayard incarne la transgression. Voilà. Voilà, vous savez tout ou presque sur notre brave cheval Bayard. Je vous quitte et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de l'histoire surprenante des contes de fées.